c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Bonjour à vous. Alors, c'est une semaine importante qui débute dans le calendrier chrétien. Et oui, demain, période festive, puisque c'est Mardi Gras, 47 jours avant Pâques. Et puis, mercredi, jour des cendres. Donc, après, c'est moins drôle, je vous l'accorde, puisque c'est carême. Mais alors, pour l'instant, que l'on soit chrétien ou pas, on peut encore profiter du carnaval et la coutume reste de déguiser les enfants et de les faire défiler dans la rue. Alors, tous les thèmes sont permis, l'important étant que chaque enfant puisse exprimer à travers le déguisement qu'il aura choisi sa personnalité et ses rêves.
Mardi Gras, carnaval, par les rues, j'allais seule, malheureuse. Tu m'as vue, je pleurais.
Marie Laforêt sur Radio Plus. Alors, pas de masque pour nos rubriques dans Saletant sur la planète. Jean-Louis Ouettet, président de l'Étrême Nature, nous mettra en garde contre tous ces produits d'entretien que l'on utilise dans nos toilettes. Et ce sont des désodorisants, des désinfectants, des gels liquides, des blocs WC, de l'eau de Javel et j'en passe. Alors, ce qui compte, bien sûr, c'est que ces toilettes sentent bon et soient irréprochables. Oui, mais qu'en est-il de notre santé dans tout cela? Leur toxicité est tellement grande et qu'en est-il aussi de notre environnement? La réponse avec Jean-Louis. Et vous verrez qu'après cela, eh bien, on aura envie de prendre l'air et pour cela, on retrouvera Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, pour jardiner autrement. Aider les autres, cela porte un nom, la solidarité. Faciliter la mobilité des personnes bénéficiant de faibles ressources et de celles qui cherchent du travail, eh bien, c'est l'objectif de Ludivine Volstignac et de Laetitia Lhermitte qui ont créé toutes les deux le garage solidaire de Béthune. Et c'est Ludivine qui sera avec nous aujourd'hui. En compagnie de Cadmerad sur Radio Plus. Alors notre enquête dans l'air du temps, eh bien vous savez que aujourd'hui il faut être rapide et oui. Et pourtant il paraît qu'il faut ralentir pour être en meilleure santé, pour améliorer nos relations avec nos proches, ralentir pour se reconnecter à soi, pour mieux réfléchir et pour mieux céder. Alors ne pas hésiter surtout à céder à la tentation de l'ennui. Écoutons Jean d'Ormesson qui écrivait dans son ouvrage « Qu'ai-je donc fait ?» Il disait « Il y a quelque chose de mieux que de s'agiter, c'est de s'ennuyer. »
« voudrais, quoi qu'il arrive, profiter du temps qui me reste à vivre. Tant de temps, si peu de temps, le temps qui tisse sa trame, le temps qui file sa chaîne, le temps qui est si pesant, le temps qui n'existe pas. Je passe mon temps à ne rien faire, j'en ai plus pour travailler. Je surveille le bananier, les bananes poussent à l'envers. Je me mets donc la tête en bas pour voir la chose à l'endroit. C'est pas bon pour l'attention, mais ça fait jaser les cons. Prendre son pied dans la moquette, partir en vol planer, dans mes synapses, dans mes univers virtuels, dans mes giganeurones, aussi vite que la lumière, dans l'infini des mémoires. Un matin l'angoisse te poisse, tu n'es plus immortel, tu jettes un œil sur ton compte, il est pas loin du zéro. Redevenir le héros du quotidien qui file, redécouvrir les gens, les objets et les jours. Ton caoutchouc, ton sans début ni fin. Interminable quand on s'ennuie, impalpable quand on jouit de la moindre seconde, comme le ravi du village qui rit de tout et de rien. Je voudrais, quoi qu'il arrive, profiter du temps qui me reste à vivre. Tant de temps, si peu de temps, le temps qui tisse sa trame, le temps qui file sa chaîne, le temps qui est si pesant, le temps qui n'existe pas, le temps qui est si pesant, le temps qui n'existe pas, le temps qui est si pesant, le temps qui n'existe pas.
François Béranger sur Radio Plus. Alors, profitons du temps, certes, mais pour certaines choses, il est plus que temps d'agir. Sale temps sur la planète, c'est avec Jean-Louis Ouatté, président de l'Étrême Nature.
Sale temps sur la planète. Oh, le drôle de temps.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Alors aujourd'hui encore, comme ces deux dernières semaines, eh bien nous continuons dans le glamour avec ce sujet, les toilettes. Eh bien oui, comme précisé auparavant, c'est la plus petite pièce de la maison, voire un tout petit coin. Et pourtant, c'est peut-être dans cet endroit que nos comportements et que notre comportement est le plus désastreux pour l'environnement. Et comme on le précise à chaque fois, bien sûr, pour notre santé. Jean-Louis, bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Alors la semaine dernière, Jean-Louis, vous nous mettiez en garde sur toutes ces choses qu'on ne devait absolument pas jeter dans les toilettes. À cette liste, on pourrait y ajouter tous les produits d'entretien utilisés pour un WC propre, assaini, désodorisé. Alors souvent, la plupart d'entre nous voulons que cet endroit soit irréprochable, qu'il sente bon et qu'il reste agréable. La première des choses, pensons-nous, c'est de bien nettoyer. Et pour cela, rien de mieux qu'un bon coup d'eau de Javel. Et oui, c'est écrit sur la bouteille. Elle tue les bactéries, donc elle désinfecte, elle blanchit, elle détache, elle désodorise. Mais justement, si on lit bien les étiquettes, eh bien, on constate que l'eau de Javel est un produit toxique et corrosif.
Et oui, bah, nous, les Français, c'est vrai que l'eau de Javel, on l'aime bien. Hein. C'est peut-être parce que c'est nous qui l'avons inventée, hein, qu'on a du mal à s'en défaire. Il faut savoir qu'en Europe, il n'y a guère que l'Espagne qui en consomme plus que nous. Hein. Donc pour ses vertus antimicrobiennes qui furent mises au service des hôpitaux, évidemment quand la tuberculose fit rage au 19e siècle, les ménagères n'y sont pas trompées. Hein, pour avoir un intérieur propre, sans microbes, susceptibles de rendre malades leur petite famille, elles se sont toutes mises à briquer à base d'eau de Javel. Malheureusement, tuer la bactérie, c'est aussi tuer les bonnes bactéries, celles qui maintiennent l'écosystème en équilibre. Et le déséquilibre qui va être engendré par le nettoyage à l'eau de Javel n'est pas du tout sain pour nous, hein, ni pour les plantes, ni pour les bestioles, qu'elles soient petites ou grosses. D'autant que, en réalité, l'eau de Javel ne lave pas. Hein. L'eau de Javel serait responsable de nombreux problèmes respiratoires et ORL chez les enfants. Associée à d'autres produits, d'ailleurs, tels que l'ammoniac ou le vinaigre blanc, elle se met à dégager des gaz qui sont purement irrespirables, donc des gaz dangereux. Certains pays, d'ailleurs, scandinaves ou même l'Allemagne, en ont interdit l'usage ménager, c'est pour dire. Donc, si vous utilisez des produits tels que les détartrants pour robinetterie, des nettoyants pour sanitaire ou même de l'anti-rouille, surtout n'appliquez pas sur ces mêmes surfaces de l'eau de Javel. Il s'ensuit des dégagements gazeux qui peuvent provoquer au mieux des maux de tête et des nausées. Au pire, ça peut provoquer un œdème pulmonaire avec, pourquoi pas, de sérieuses complications infectieuses. Donc, grande méfiance avec l'eau de Javel.
C'est bien, Jean-Louis, vous nous donnez des bonnes nouvelles. Voilà. Donc, on dit stop à l'eau de Javel, mais on la remplace par quoi, Jean-Louis ?
Bah, il faut changer ses habitudes. Hein. Avec le recul, on sait qu'il n'est pas utile d'avoir à la maison un désinfectant bactéricide, fongicide, sporicide, virucide, etc. On n'est quand même pas dans une salle d'opération à cœur ouvert. Au contraire, les microbes et les bactéries nous sont nécessaires pour nous développer, pour nous maintenir en bonne santé, pour lutter d'ailleurs contre d'autres micro-organismes qui, eux, seraient nocifs. Donc, garder sa maison saine et propre, c'est une chose, mais pour ce faire, il y a d'autres options qu'un produit qui, d'ailleurs, ne lave pas et puis qui est dangereux pour l'environnement. Donc, il y a d'autres produits, je pense, pour les toilettes, il y a le vinaigre blanc, par exemple. Bah, il nettoie, il désinfecte juste ce qu'il faut, il a un effet antiseptique. Il peut être utilisé dans les toilettes sans risque de mettre à mal le fonctionnement de la fosse septique, contrairement, d'ailleurs, à l'eau de Javel qui détruit des bactéries et désagrège le contenu. Alors après, il y a le savon noir, il y a le savon de Marseille qui sont aussi efficaces. Je pense aussi pour le détartrage des toilettes, il y a aussi l'acide citrique. Et puis il y a aussi quelques huiles essentielles qui vont un peu assainir l'intérieur, comme le titri par exemple. Bon là aussi, les huiles essentielles, attention à utiliser avec parcimonie.
Mais Jean-Louis, du Javel, finalement, il y en a aussi dans tous ces gels qui oscillent entre le bleu et le vert fluo. C'est beau dans les toilettes, surtout quand les toilettes sont blancs. Mais cela pourrait être une réplique des tontons flingueurs. Hein. Il n'y a pas que du Javel là-dedans, surtout lorsqu'ils affichent détergent, détartrant et très puissant. Se méfier des gels.
Les produits en gel pour les toilettes, c'est souvent composé de détergent, d'acide, de parfum pour tuer le plus de bactéries possible. Hein. Tout le monde veut des toilettes propres, donc beaucoup s'arrachent le dernier détergent à la mode. Seulement, certains produits ménagers qui sont vendus en gel, ça représente des risques, et ces risques sont toujours les mêmes et particulièrement dangereux pour la santé. Ça peut provoquer des brûlures et des irritations. Il faut savoir que la notoriété n'est pas non plus un gage de qualité sanitaire et environnementale. Hein. On achète quelquefois des produits pour nettoyer les toilettes, à partir de la notoriété des produits. Faut savoir que la réglementation sur les détergents n'impose d'indiquer que les grandes familles de composants avec leur fourchette de concentration. Le reste, les allergènes, les conservateurs, n'est pas obligatoire. Et donc, l'étiquetage est loin d'être complet et lisible pour le consommateur. Il y a le mensuel 60 millions de consommateurs qui pointait également que les termes employés dans les compositions ne sont pas harmonisés non plus. Hein. Mmh. Certains ont jusqu'à 28 synonymes, donc comment le public peut-il s'y retrouver hein. Et d'autant plus que les détergents peuvent dépendre de plusieurs réglementations différentes, ce qui ajoute à la confusion.
Alors, le nec plus ultra, Jean-Louis, c'est le bloc WC qui affiche colore en bleu, nettoie et fait briller, désodorise, combat la formation du tartre. Alors là, pareil.
Bah oui, tout à fait. À quoi sert un bloc WC ? Bah, les blocs pour les WC, ça a une double fonction. D'abord de nettoyer la cuvette et maintenir une odeur parfumée dans les toilettes. Et c'est un produit qui est utilisé dans des millions de foyers, mais aussi dans les crèches, les entreprises, les écoles. Et malheureusement, il est mis en cause pour son action comme un perturbateur endocrinien. On en a déjà longuement parlé, des perturbateurs endocriniens. parce qu'il contient du dichlorobenzène. Hein. Le dichlorobenzène, c'est classé comme cancérigène possible pour l'être humain, et c'est suspecté d'être un perturbateur endocrinien. Et en plus, la plupart de ces blocs désodorisants pour toilettes contiennent un colorant qui est destiné, lui, à la belle couleur bleue ou verte dans les toilettes. Et la composition de ces blocs varie généralement. On retrouve du borax, du troclosène, de sodium, du dihydrate, etc. Qui est d'ailleurs, le dihydrate est utilisé pour remplacer le javel, et fréquemment un parfum additionnel. Donc ces produits sont irritants hein, pour les yeux, la peau, les voies respiratoires, et à long terme, ce paradichlorobenzène peut avoir des effets sur le foie, les reins, puisque c'est un perturbateur endocrinien.
Et bien sûr, là aussi, c'est ce qu'on disait plus haut, il y a des alternatives à ce bloc.
Bah, oui, il y a des alternatives, il y a des produits qui sont par exemple à base d'huile essentielle, essentielle de pin et d'eucalyptus, avec une biodégradabilité qui est optimale, et puis avec un emballage qui est recyclable. Donc ces blocs WC naturels, ça propose des alternatives qui pour nettoyer efficacement sans nuire à la santé des utilisateurs. Il n'y a pas de solvant, il n'y a pas de risque chimique lié à un mélange avec de la javel, pas d'allergène. Et puis, ces produits ont un impact beaucoup plus limité sur l'environnement. Il n'y a pas de phosphate, il n'y a pas de composés organiques volatiles. Et puis, c'est biodégradable. Donc, il existe une alternative, bien entendu, à ces blocs.
Alors, Jean-Louis, excusez, mais quand on va aux toilettes, avant de quitter, on donne bien sûr un petit coup de bombe. L'aérosol qui apporte un vent de fraîcheur au local. Mais là aussi, attention.
Là aussi, on est dans la même gamme de produits. On a des produits qui sont des irritants. Faut savoir que la pollution intérieure, c'est un sujet d'ailleurs qu'on a déjà traité. On a déjà fait une soirée sur là-dessus. Et c'est un problème important, la pollution intérieure des habitations. Et donc, si on prend les toilettes, qui est un local quand même de dimension très très restreinte, quand on voit donc les produits en bombe qu'on peut y mettre, il faut être très très vigilant. Il faut surtout éviter de mettre des produits dangereux.
Oui, surtout les personnes asthmatiques, surtout les personnes qui ont
des enfants.
Bien sûr.
On découvre qu'il y a des problèmes récurrents, des problèmes de santé, qui sont dus justement à ces excès de produits, d'eau de javel, de déodorants, etc. Et il y a je pense par exemple à la Maison de l'Environnement de Dunkerque, il y a une cellule qui fait des études chez les particuliers pour justement leur montrer que les problèmes de santé respiratoire qu'ils peuvent avoir sont dus en majeure partie à cause des produits utilisés, notamment l'eau de Javel.
Tout à fait. Alors si je résume, Jean-Louis, les toilettes se rendent propres avec du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, du citron aussi, et puis des huiles essentielles. Tout bon pour notre santé et pour l'environnement.
Tout à fait. Et puis on limite aussi les déchets plastiques. Je pense par exemple le bicarbonate de soude, l'acide citrique. On peut trouver ça dans les magasins zéro déchet. Et puis on peut acheter ça avec ses propres contenants.
Jean-Louis, merci.
Voilà, merci, bonne semaine.
Très très bonne semaine à vous. Alors, vous ne serez pas avec nous lundi prochain,
non,
famille oblige. Mais on se retrouve dans 15 jours. Merci Jean-Louis.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au cœur de la grande ville, en blouse à fleurs et trotteur fourré, sous un vieux néon qui vacille, dans les vapeurs ammoniaquées, j'attends le micheton de passage, qui dégainant son gros attirail, viendra saloper mes carrelages, et se lâcher dans mon émail. Les pièces tombent une à une, dans ma soucoupe en arc opale, mais ça me fait pas des fortunes, chez moi la passe est à 2 balles. Entre un bon coup de balai brosse, de couinement, de gants mappa, je dis merci d'un ton féroce aux ceux qui ne cotisent pas. mais ce dont moi je suis la plus fière, en plus d'être dame pipi, c'est de ma collection de graffitis et de croquis plein de délicatesse que mes petits pensionnaires me laissent sur les murs blancs de leurs cellules. Cette prose tout en finesse, ponctuée par ces jolies virgules. Moi qui aime l'art brut et distingué, dans mon boulot je suis gâté. Je me présente, mon nom c'est Nadège, Nana Torchette. Pour les intimes, je ressemble à une concierge évadée d'un mauvais téléfilm, une Kelton d'après-guerre, plus tout à fait très waterproof, que je porte à la boutonnière pour éviter qu'elle se prenne un plouf. Sur ma table, en formica, d'une couleur indéfinissable, je l'y voici match et gala, en calant sur les mots fléchables, vachement dur. L'après-midi, je mets mes grosses têtes, flot de sinistre calembour, et j'astifrotte mes lunettes, avec Bouvard, avec amour. Mais ce dont moi je suis la plus fière, en plus d'être dame pipi, c'est de ma collection de graffiti, de grosses zizi gribouillées en vitesse, que les petits pensionnaires me laissent sur les murs blancs de leurs cellules. Cette prose tout en finesse, ponctuée par ces jolies virgules. En quelque sorte, mon vrai métier, bah c'est gardienne de musée. Pause syndicale. Accordéon. Et quand vient la fin de journée, j'essuie la feuille de ma plante grasse en discutant d'un ton blasé avec le gars de la Securitas, celui qui surveille avec son gros chien les escaliers et les couloirs, les kilomètres d'intestin de notre sous-sol à cafard. On n'a pas grand chose à se dire, c'est tous les soirs le même couplet. Au fond du trou, il va sans dire qu'on se fout pas mal du temps qu'il fait. Lui, il me cause d'armes automatiques, il me raconte son service militaire. Moi, je lui parle musique classique et du bolero de Wagner. Mais ce dont moi je suis la plus fière, en plus d'être dame pipi, c'est de ma collection de graffiti et de poèmes qui parlent de fesses, que mes petits pensionnaires me laissent sur les murs blancs de leurs cellules. Cette prose tout en finesse, qui rime en houille, qui rime en hule. Marrez-vous, mais quand ce sera l'heure, je vais me faire un paquet de flouze, en éditant à compte d'auteur l'intégrale de toutes ces perlouses. Y'a 35 piges les pattes dans l'eau de Javel, que j'archive toutes ces horreurs, avec un bon coup de promo chez Fogiel, ça devrait faire un best-seller. Et si je t'en fourgue autant d'exemplaires qu'il y a eu de trous du cul qui se sont assis sur mes water, je finirai riche comme crazy.
Éric Toulis sur Radio Plus. Et alors après le Javel, on dit la Javel. Après la Javel, après les désodorisants, eh bien on prend l'air avec Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Eh bien après tous ces parfums, ces désodorisants très mauvais pour la santé et pour notre environnement, on prend l'air avec vous Bertrand en faisant une petite visite au jardin. Alors certains me diront que l'air n'y est plus vraiment pur, hein, mais il faut rappeler que l'air de notre habitation est 8 fois plus pollué que cet air extérieur à cause, entre autres justement, des produits nettoyants. Et donc, eh bien, pas de produits nettoyants au jardin, bien sûr, et aucun autre produit d'ailleurs. Donc, on respire. Alors, on respire moins bien à l'intérieur, dans les serres du Finistère, par exemple. Le ministère vient de confirmer la contamination des plants de tomates de 2 serres par ce fameux virus d'une extrême contagiosité. Alors, Bertrand, vous nous avez fait un premier point déjà dans cette rubrique. Ça y est. Il a passé la frontière, alors mais ma question sera simple. Ne sommes-nous pas en train de payer nos erreurs et certains modes de production, c'est-à-dire culture à haute intensité de plantation et de plus sous serre, avec des graines importées, puisqu'il est interdit à présent aux agriculteurs, et on ne comprend pas bien pourquoi, il est interdit de produire leurs graines eux-mêmes. Et puis aussi il y a le fait qu'on cultive les tomates toute l'année. Qu'est-ce que vous en pensez Bertrand ?
Ouais, bah c'est évident, hein. C'est évident que la culture intensive sous serre, c'est vraiment pas l'idéal en production. Donc on produit des tomates en plein hiver, dans des serres qu'il faut chauffer. Hein. Si en plus elles sont produites hors sol, donc avec des apports d'eau et d'engrais, mais bien sûr avec des carences, c'est qu'on mettra pas tous les oligo-éléments dont elles auront besoin, pas tous les minéraux dont elles auront besoin. Donc ceux qui mangent que des fruits hors sol, bah forcément ont des carences. Hein. Alors, c'est vraiment un non-sens écologique, hein, et rien de bon pour la planète. Bon, mais enfin, c'est comme ça. Mais encore une fois, hein, une grande partie des consommateurs sont heureux qu'on leur propose des tomates en hiver, et ils les achètent. Donc effectivement, si les consommateurs n'achetaient plus de tomates en hiver, bah, peut-être qu'on les produirait pas non plus. Et puis effectivement, on se demande pourquoi les producteurs ne peuvent plus produire eux-mêmes leurs graines. Donc en ce qui concerne les tomates, on a habitué les consommateurs, toujours, hein, à désirer des fruits uniformes, de même grosseur, de même couleur, d'où les graines F1, qui ont une production de tomates quasiment identique en permanence. Donc, mais ce sont des graines de première génération, donc elles ne sont pas fixées. Donc on ne peut pas récupérer de graines. Et si on récupère des graines, les tomates qui suivent, bah, elles sont complètement différentes. Elles ne sont pas identiques l'année suivante. Donc on est obligé, enfin les producteurs de tomates sont obligés d'acheter des graines tous les ans. Hein. Alors cette production de tomates industrielle s'est faite au détriment forcément de la qualité gustative, hein, et c'est fait uniquement pour le transport et la conservation. Mais comme je dis toujours, le consommateur est roi, donc c'est à lui à choisir.
Bien sûr, c'est nous qui choisissons, tout
exactement.
À fait. Pour reprendre la phrase clé de Jean-Louis. Alors, bon, de toute façon, on ne répétera jamais assez que ces modes de production ne vont pas dans le sens d'une biodiversité de la tomate, comme vous venez de le dire. Seule arme efficace de la nature pour résister aux épidémies provoquées par des virus ou d'autres agents pathogènes. En tout cas, c'est là qu'on se dit « Vive le jardin et les légumes cultivés par nos soins ». Alors, heureusement, ce n'est pas encore interdit. Malheureusement, tout le monde ne peut pas faire ses graines, Bertrand. Alors, justement, comment peut-on avoir des graines, on va dire, saines, françaises, bio, pas trafiquées, reproductibles? Par exemple, au jardin de l'Ermite, vous faites quoi?
Alors, c'est vrai. Vive le jardin cultivé par nos soins, parce que en plus, les jardiniers, jardiner en jardin, c'est excellent pour notre santé. Hein. Alors, faire ses graines, ça semble un peu compliqué. Bon, mais en fait, c'est relativement simple, et nos ancêtres, hein, le faisaient sans aucun problème, ce qui leur permettait d'améliorer par sélection telle ou telle variété, d'échanger avec leurs voisins, bah, de créer des liens sociaux, des tas de choses. Hein. Mais ce savoir, c'est quelque peu perdu. Toutefois, il reste quand même des semenciers sérieux qui vont produire des graines de façon tout à fait biologique. Hein. Par exemple, alors, je vais vous parler de semaille, par exemple, mais c'est, bon, il n'est pas français, il est belge, mais je connais très bien, parce qu'il tient stand tous les ans à notre fête de la tomate, et des légumes anciens. Et comme il habite dans la région de Namur, ces graines sont tout à fait adaptées à notre région. Et bien sûr, il y en a bien d'autres, des semenciers qui font des graines bio, hein, le biogerme, semences bio, essence bio. Vous regardez sur Internet, vous allez trouver plein de grainiers intéressants avec de bonnes graines. Donc il faut essayer de favoriser justement les graines bio parce que eux, ils se démènent, ce sont des petits, ce sont pas des gros lobbies, des grands semenciers. Voilà, essayez de passer par eux. Et puis, ben, nous, ce qu'on fait, ben, par exemple, on organise un troc de plantes et de graines chaque année le 1er mai au Jardin de l'Ermite à Vesquerque. Hein. Donc c'est ouvert à tout le monde, pas besoin d'inscription, vous venez, hop, terminé, vous installez et puis vous échangez. Et de notre côté, nous, on va récolter, bien sûr, les graines de tomates. On fait une collection de graines de tomates, à 950 variétés à peu près, des graines de piment, 120 ou 140 variétés, des haricots à peu près pareil. Et donc, on va continuer dans ce sens avec tous les autres légumes pour essayer de sauvegarder un peu tous ces légumes anciens. Et puis, bien sûr, lorsque des adhérents vont désirer des graines, ben, on va leur en fournir gratuitement sans aucun problème. Hein. Comme ça permet de faire perdurer un peu dans le temps et pour les générations futures.
Tout à fait. Alors, bon, Bertrand, j'ai bien compris, même si on parle de graines, j'ai bien compris que l'on ne met rien en pleine terre avant les seins de glace. C'est bien cela, n'est-ce pas?
Alors, non. Pas tout à fait.
Ah bon?
Alors, on ne met rien en pleine terre après les seins de glace. On ne met pas en pleine terre après les seins de glace que les plantes fragiles ou froides, comme les tomates, les piments, les aubergines ou encore les courges. Bon, c'est là, on ne va pas les mettre avant, il y a risque de geler. Mm. Hein. Mais on a déjà mis, bien avant le mois de mai, on a semé les petits pois, les carottes, les salades, les fèves, je sais pas, la poirée, les radis, les choux, les poireaux, on a planté nos pommes de terre, bah, etc. Il y a plein de choses à faire au jardin bien avant les seins de glace. Donc, on attend les seins de glace et les risques de dernière gelée que pour les plantes qui sont vraiment pas rustiques. Hein. Voilà. C'est vrai qu'avec le réchauffement actuel, hein, réchauffement climatique actuel, on peut peut-être avancer de 15 jours.
D'accord.
Donc on peut peut-être commencer à mettre début mai, mais attention, prudence.
Mmh. Mais donc là, on peut commencer à remuer cette terre, on va dire.
Ah ouais, mais disons qu'actuellement, la terre est imbibée. Enfin, chez nous, la terre est complètement imbibée d'eau. Hein. On peut rien faire.
Oui, voilà, c'est ça, oui.
Hein, j'ai même pas pu mettre l'ail en place, c'est noyé.
Alors, bon, bah, pour prendre l'air et continuer à faire le jardin propre, on peut peut-être s'occuper actuellement de nos hortensias. Et oui, après avoir profité de la floraison du printemps à l'automne, on laisse souvent les fleurs sécher pour préserver l'hortensia du froid. Alors, quand on coupe, faut-il faire une coupe sévère pour les rendre plus florifères?
Alors, c'est vrai qu'effectivement, on peut laisser les fleurs sécher des hortensias durant toute la période hivernale. Elles vont assurer une petite protection contre le froid. Mais maintenant, au printemps, on peut encore attendre un peu, hein, on va enlever toutes ces fleurs fanées. On va couper juste sous ces fleurs, car les bourgeons qui sont en dessous, qui vont démarrer en dessous, ce sont justement des bourgeons floraux. Donc, il ne faut pas couper trop bas, on coupe juste sous les fleurs et on laisse faire. Pas sûr. Bien sûr, il faut éviter toutes les tailles sévères. Hein, à moins que vous voulez régénérer votre hortensia, là vous coupez au ras, mais vous n'aurez pas de fleurs l'année suivante. Hein. Mais vous pouvez aussi éliminer, donc si vous coupez les fleurs, vous éliminez également les branches qui sont frêles, les plus vieilles branches, et puis vous éclaircissez un peu la plante, hein, pour qu'elle soit un peu plus harmonieuse. Alors là, on parle d'hortensia, hein, qui fait partie de la famille des hydrangea. Et dans les hydrangea, il y a par exemple les hydrangea paniculata, que eux ont on peut tailler sévèrement, beaucoup plus sévèrement, puisqu'ils vont fleurir sur le bois de l'année. Donc il faut faire toujours attention de quoi on parle quand on parle d'hortensia, tout ça. C'est la famille, c'est les hydrangea, c'est une très grande famille dans laquelle il y a les hortensia, mais il n'y a pas que ça.
D'accord. Bertrand, merci. Alors, c'est aujourd'hui la Saint-Modeste. Quand on jardine, je crois qu'il faut l'être quand même, non?
Oui, tout à fait, oui.
Peut-être pas vraiment modeste, mais en tout cas...
Qu'au jardin, il faut vraiment faire preuve d'humilité.
Faire preuve d'humilité, tout à fait. Et alors, le dicton dit, à la Saint-Modeste, repique tes choux s'il t'en reste.
Donc, c'est vrai, je continue pour le jardin. On est vraiment à l'école de la nature et on y en prend en permanence. Donc, il faut toujours s'adapter, car les journées se suivent, mais se ressemblent absolument pas. Hein. Et puis, comme tout jardinier, bah, on fait tous des erreurs. Il faut simplement essayer de les comprendre et pour éviter de les refaire. Hein. Donc le jardin, c'est vraiment l'école, une école où chaque jour on s'extasie devant la beauté de la nature, une école qui nous rend vraiment heureux. Hein. Donc c'est vraiment bien. Par contre, en ce qui concerne les choux, pour nous, ce sera pas en ce moment qu'on va les repiquer, parce que vraiment le jardin est vraiment gorgé d'eau. C'est incroyable. On a manqué d'eau maintenant.
Oui, j'allais le dire, Bertrand. Vous vouliez de l'eau, vous l'avez.
Et c'est bien, et je suis bien content. Maintenant, je voudrais un peu de soleil et un peu de ciel bleu.
En tout cas, Bertrand, merci. On vous souhaite une très belle semaine. On se dit à lundi.
Oui, à lundi. Hein.
À lundi, merci
bonne
Bertrand.
Bonne semaine à tout le monde. Au revoir.
Raconte-nous le temps où l'on vivait sur terre. Redis-nous les printemps, les forêts, les rivières. Rechante-nous le vent, dessine des nuages. Fais le bruit du torrent, des vagues sur les plages. Explique-nous les mers, les océans profonds, l'écume, les marées, la ligne d'horizon. Cette ligne qui fuit quand on s'approche d'elle. Fais-nous voir le jour, parle-nous du soleil. Le soleil, c'est le phare de la terre, l'immobile lumière, le regard de la vie, de la vie. C'est de lui que tout vient, c'est vers lui que l'on va, c'est la femme, la mère, l'amante, c'est l'ami. Et puis, c'est un très grand artiste, c'est un aquarelliste, un faiseur de décors, de décors. Enfin, c'était la vie avant que tout soit mort. Raconte-nous le temps où l'on vivait sur terre, reparle-nous encore du paradis perdu. Récite-nous la pluie, les éclairs, les tonnerres et ces chants qui s'étendent jusqu'à perte de vue. Moi, je ne comprends pas comment il peut se faire qu'on puisse voir plus loin que ce mur tout là-bas. Tu me dis avoir vu la courbure de la terre et le ciel par-dessus qui n'en finissait pas.
Georges Chelon sur Radio Plus. Alors, beaucoup de jeunes, 18-24 ans, ont déjà renoncé à un emploi faute de pouvoir se déplacer, tandis que des personnes au chômage ne peuvent accepter l'emploi qu'on leur propose faute de pouvoir s'y rendre. Alors, il y a quelquefois une voiture au garage, c'est vrai, mais en panne, faute d'avoir les moyens de la faire réparer. Alors, bon, les transports en commun, c'est bien à condition qu'ils passent par votre village et aux bonnes heures. Et puis, le stop, ça n'est pas toujours évident. Et puis, il faut bien admettre que les difficultés de mobilité constituent un frein à l'emploi. Et bien sûr, les publics les plus touchés sont les plus précaires et les plus isolés. Ludivine Volchtignac, bonjour.
Bonjour Martine.
Alors, c'est parce que vous avez très vite pris conscience de ce problème que vous avez décidé, vous et Laetitia Lhermitte, de vous lancer dans l'aventure du garage solidaire, un bel exemple d'économie sociale et solidaire et pour cause. Quel en est le concept, Ludivine ?
Alors, comme vous l'avez évoqué, Martine, effectivement, beaucoup de personnes ont déjà dû renoncer à un emploi faute de mobilité. Donc, Laetitia et moi-même travaillons dans l'insertion professionnelle depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, c'est vrai qu'on est assez frustrés d'avoir des personnes qui ne pouvaient pas accepter un emploi faute de pouvoir se rendre sur le lieu de travail. Donc, on a eu l'idée de monter un garage solidaire qui... ce principe existait déjà, hein. Nous ne l'avons pas inventé, nous l'avons juste adapté à notre territoire d'intervention. L'idée chez nous, en fait, c'est de proposer un service d'entretien et de réparation de voitures, voiturettes et de scooters à moindre coût. Là où un garage classique va vous demander une main d'œuvre entre 40 et 70 euros lors de main d'œuvre, on est beaucoup moins cher. Donc, sur le tarif, on propose un principe d'insertion qui est double. Les mécanos chez nous sont des salariés en insertion, c'est-à-dire qu'ils sont là pour être formés au métier de mécanicien automobile, sous la tutelle d'un chef d'atelier qui est, lui, diplômé, expérimenté dans ce domaine et qui les forme progressivement à tous les gestes liés à la mécanique automobile. Donc, ça va démarrer sur de l'entretien de premier niveau et ça peut aller jusqu'à de l'embrayage, de la distribution. Voilà, toutes les interventions un peu plus techniques. L'idée étant réparer les véhicules, comme vous l'avez évoqué, de personnes en situation de précarité qui n'ont pas de moyens financiers de recourir à des garages classiques, en fait.
Mais alors, justement, Ludivine, je suppose qu'il y a des conditions d'accès.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ne peut pas venir chez nous qui veut. Donc, pour venir chez nous, il y a d'abord une condition financière qui est de ne pas dépasser le SMIC. Donc, outre cette condition financière, c'est aussi d'être envoyé par un prescripteur. En fait, nous n'accueillons que des clients qui soient envoyés par des prescripteurs tels que la mission locale, le Pôle emploi, le PLI. On travaille aussi avec beaucoup de CCAS, des associations comme les Restaurants du Cœur, le Secours Populaire, donc qui nous envoient le public, en fait.
Alors justement, ce qui est formidable, hein, c'est que, comme vous venez de nous le dire, non seulement vous favorisez par cette démarche un retour à l'emploi, mais votre association a elle-même donc permis une réinsertion professionnelle, ce qui est formidable.
Bien sûr. La réinsertion professionnelle, en fait, c'est un des piliers, en fait, de notre projet. Donc, nous travaillons sur l'insertion et la réinsertion professionnelle déjà de nos salariés. Donc, il faut savoir que les salariés chez nous ne vont pas au-delà de 24 mois. Donc, ils restent chez nous le temps de régler les problèmes périphériques à l'emploi, que ce soit le logement, la santé, la mobilité, parce que eux-mêmes, même s'ils travaillent dans un garage, sont impactés par des soucis de mobilité. On travaille en parallèle avec eux à un projet professionnel réaliste et réalisable. Et ensuite, on les envoie soit à un emploi direct, s'ils ont les qualifications et les compétences, ou alors sur une formation. À travers aussi nos actions de réparation et d'entretien de véhicules, on a permis à plus de 150 personnes de retrouver un emploi ou d'intégrer une formation. Donc, on n'en est pas peu fiers.
Mais alors, oh oui, il y a de quoi. Ludivine, ne vous a-t-on jamais reproché, je ne parle pas de ceux qui peuvent profiter de vos prestations, hein, très heureux sans doute, mais il y a les autres, ne vous a-t-on jamais reproché d'être un garage low cost, employant une main d'œuvre pas tout à fait à la hauteur ? Alors, quoi répondre à ces gens qui doutent ?
Oui, effectivement, on a déjà eu des critiques à ce propos. Attention, il ne faut pas confondre prix modéré avec qualité du travail négligé. Pas du tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, nos salariés sont encadrés par un chef d'atelier diplômé, expérimenté. Toutes les voitures qui sortent de notre atelier sont visées. Donc par ce chef d'atelier. Donc il n'y a pas de risque de ce côté-là. Donc voilà. Après, effectivement, faut savoir aussi que nous ne faisons pas de concurrence déloyale sur les garages classiques, étant donné que les personnes viennent chez nous uniquement sur prescription, en fait. Donc il y a des critères à remplir.
Bien sûr. Alors remettre des véhicules en bon état de fonctionnement. Est-ce que cela passe aussi par la case environnement?
Bien sûr, effectivement. C'est vrai que le secteur de la mécanique auto joue toujours la carte du pollueur, hein, effectivement. Donc, comme tout garage, nous proposons aussi des pièces de réemploi, conformément à l'obligation légale. Donc voilà, ça, nous appliquons cette obligation. Mais il faut savoir aussi que nous proposons aux personnes qui effectuent leur vidange elles-mêmes de pouvoir venir déposer leur huile de vidange dans nos bacs de collecte gratuitement. Parce qu'il faut savoir qu'un litre d'huile de vidange déversée dans la nature, c'est 1000 litres d'eau qui sont contaminés. Donc voilà, on apporte aussi via ce geste notre petit plus à l'environnement, parce qu'effectivement c'est important. On développe aussi depuis quelques temps la mobilité électrique.
Oui, justement.
Donc, voilà, donc à travers la location de scooters et de vélos électriques.
Parce que bon, c'est vrai que suite à ce sujet environnemental, la mobilité n'est pas toujours synonyme de voiture. En plus, il faut bien admettre que tout le monde ne possède pas le permis de conduire aussi, qui représente lui aussi un certain coût.
Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, comme vous le dites, ça n'est pas à la portée de tout le monde. Donc depuis quelque temps, comme je l'ai évoqué, nous développons d'autres services, de la location de scooters thermiques et électriques, du vélo électrique. Donc pour promouvoir aussi cette mobilité plus douce à travers notre territoire d'intervention. Nous développons aussi des actions d'accompagnement à la mobilité, parce que c'est vrai que nous sommes sur la communauté d'agglomération Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romane, où il y a quand même un réseau de transport assez dense. Donc, malheureusement, certaines personnes n'osent pas ou ont peur de prendre les transports en commun, que ce soit le bus, le train. Et l'idée, c'est de pouvoir les aider à mieux se déplacer à travers le réseau de transport qui est déjà existant, en fait. La voiture, c'est bien, mais ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde, que ce soit en termes de coûts financiers, mais aussi en termes de capacité, en fait.
Et alors, quelles sont vos ambitions à vous maintenant, pour le futur, on va dire, à vous, Ludivine Volchtiniak, et à Laetitia Lhermitte?
Alors écoutez, on a toujours l'ambition de développer de nouveaux projets. Donc
oui.
On parle de trottinettes, on parle d'accompagnement à la mobilité dès le plus jeune âge, hein, donc auprès des écoles. Hein. Donc les projets sont nombreux. Malheureusement, voilà, pour mettre en place de nouveaux projets, il faut trouver des financements. Donc ce qui est toujours le nerf de la guerre, hein, l'argent. Donc voilà. Donc notre souhait, ça serait de trouver des nouveaux financements pour pouvoir monter ces nouveaux projets, mais aussi pérenniser notre action, parce que voilà, nous sommes comme toute association impacté par les baisses de financement des associations, surtout quand des fois vous avez aussi certains financeurs qui ne tiennent plus leur engagement, en fait. Donc
oui.
Voilà, le financier, quelle que soit la structure, c'est toujours le nerf de la guerre.
Tout à fait. Alors, votre garage est situé à Béthune, rue du Maréchal-Juin. Alors, sur le plan géographique, on va dire, combien de communes peuvent s'adresser à vous?
Alors, en fait, notre territoire d'intervention, c'est un peu plus de 100 communes, hein, au niveau de Béthune, de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romane. Il arrive des fois qu'on soit contacté par d'autres villes, donc qui ont entendu parler de nous et qui ont envie de bénéficier de nos services. Donc, dans la mesure où il n'y a pas de garage solidaire sur le territoire, nous pouvons ponctuellement aussi prendre des personnes qui ne sont pas de notre territoire.
Et comment faire? Comment faire? On peut faire. Bon, bien sûr, la liste est sur peut-être sur Internet. Et puis peut-être s'adresser à la commune, non?
Oui, voilà, que la passer par généralement le CCAS de la commune. Mmh. Donc, il suffit d'établir une fiche de liaison. Donc, voilà, la commune peut nous contacter. On transmet les fiches de liaison. Les personnes peuvent nous contacter directement. Hein, donc, pour avoir plus d'infos. Et puis, voilà. Après, notre principe, voilà, c'est de rencontrer d'abord
la personne,
d'avoir un premier rendez-vous pour établir quand on est sur de la réparation. Un devis qui est gratuit et voilà, et après si la personne si le devis correspond à ce que la personne peut mettre dans la réparation, voilà, on programme un autre rendez-vous.
Ludivine, merci. Alors très très vite, avant de vous quitter, encore une petite question. Un garage qui a à sa tête deux jeunes femmes, c'est quand même assez exceptionnel pour que l'on vous tire un coup de chapeau, non?
Écoutez, oui, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est assez atypique dans le secteur de la mécanique, des femmes à la tête d'un garage. Mais ça montre aussi que les femmes ont leur place dans un environnement professionnel comme la mécanique. Au garage, on a un slogan, c'est « quand on veut, aux pneus ».
D'accord. Et puis alors justement, on peut peut-être finir en citant Sénèque, hein, qui disait « ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles ». En tout cas, Ludivine, merci. Et puis on ne peut que saluer votre enthousiasme à aider les autres. Merci Ludivine.
Merci à vous Martine.
Eh bien voilà, l'air du temps se termine, mais je ne vous quitte pas encore puisque suivra Kaléidoscope avec ses chansons et sa musique, histoire de passer ensemble une heure bien agréable.